Vous écoutez On lit pour vous.
Ce qu'une balade à vélo m'a montré de l'héritage de l'apartheid. Un texte de John Elligon du New York Times paru le 6 mai 2026 dans Le Devoir. Nous approchions de la fin de notre trajet de 16 km lorsque nous avons quitté une artère chaotique à 6 voies pour emprunter une piste cyclable tranquille le long d'un canal. C'était le moment le plus serein de cette balade d'environ une heure qui nous avait mené de l'agitation du centre-ville du Cap jusqu'aux abords de Langa, un township d'Afrique du Sud. Mais la puanteur du canal, remplie d'ordures, a vite rompu l'atmosphère idyllique. Le gazon qui bordait la piste était clairsemé et mal entretenu. Plutôt que de m'attarder pour goûter au calme, je n'avais qu'une envie, pédaler pour sortir de là le plus vite possible. En mars 2026, j'ai participé à une sortie à vélo organisée par Young Urbanists, un organisme sans but lucratif qui milite pour un réaménagement des espaces urbains permettant de réduire les disparités raciales, sociales et économiques héritées de l'ancien régime d'apartheid sud-africain. La promenade a commencé un dimanche après-midi sur Bree Street, une artère animée du centre du Cap, bordée de restaurants, de hauts immeubles et de toutes les commodités que l'on associe à une ville moderne. Elle s'est terminée à Langa, l'un des nombreux townships périphériques où le gouvernement d'apartheid, dirigé par les Blancs, avait forcé les Sud-Africains noirs à vivre. Le long de ce parcours sinueux, j'ai vu les imposantes barrières physiques et psychologiques laissées par un système de ségrégation raciale extrême. Même si l'apartheid a pris fin il y a 3 décennies, aucune de ces barrières ne se laisse facilement éliminer. Il y avait pourtant des signes de progrès. Ce canal, tranquille, quoique nauséabond, formait autrefois une zone tampon, sans vie, créée par les autorités de l'apartheid pour séparer Langa d'Athlone, un township réservé aux Sud-Africains dits « colored », un groupe ethnique multiracial défini par le régime d'apartheid. Au cours des 2 dernières années, la ville a ouvert un pont au-dessus du canal, ce qui a facilité les déplacements dans le secteur. Roland Postma, 30 ans, qui dirige Young Urbanists, a expliqué que son organisme avait proposé de réaménager ce tronçon en repavant les voies piétonnes et cyclables, en installant un éclairage adéquat et en aménageant un terrain de soccer afin d'attirer davantage de résidents. Une telle remise à niveau pourrait s'inspirer d'un autre segment du parcours le long de la rivière Lisbeek dans un quartier plus aisé. L'apartheid ne visait pas seulement à séparer les Noirs et les Blancs, a dit M. Postma. Il reposait aussi sur le désinvestissement. Pendant la sortie, nous avons circulé le long d'infrastructures délabrées datant de l'apartheid, en grande partie conçues pour maintenir la ségrégation. Nous avons traversé des ponts, franchi des voies ferrées, roulé sous des viaducs autoroutiers et longé l'accotement de larges artères où les voitures filaient à toute vitesse. À mesure que nous quittions le centre-ville du Cap, les pistes cyclables vers Vif ont cédé la place à de simples lignes blanches délavées, délimitant d'étroites bandes cyclables que les automobilistes ignoraient à peu près complètement. Selon des historiens, le gouvernement d'apartheid a éventré de petites rues de quartier pour construire de grandes artères permettant aux travailleurs noirs et « colored » d'entrer dans la ville et d'en sortir le plus rapidement possible, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'y vivre. Sur Clip Fountain Road, les voitures roulaient si vite sur les 6 voies que mon vélo vacillait parfois à leur passage. Nous avons emprunté un pont au-dessus d'une autoroute nationale pour atteindre Langa. Au sommet, M. Postma a fait remarquer qu'une voie réservée aux autobus express existait d'un côté de l'autoroute, mais pas de l'autre. Le côté qui était doté d'une telle voie menait vers le centre du cap, a-t-il dit, laissant entendre que les entreprises voulaient que les travailleurs arrivent rapidement en ville, sans se soucier du temps qu'il leur faudrait pour rentrer chez eux. Lorsque nous sommes arrivés à destination, devant une galerie d'art de l'Erotoli Avenue à Langa, un autre cycliste m'a montré à quel point le township était isolé des communautés qui l'entourent. À l'aide d'une carte sur son téléphone, il a placé un repère sur une école du quartier voisin de Pinelands, une banlieue de classe moyenne supérieure. L'école se trouvait à un peu plus de 800 mètres, mais à cause de la présence d'une autoroute, d'un mur surmonté de barbelés et de voies ferrées séparant Langa de Pinelands, il faudrait marcher près de 10 km pour s'y rendre. De tous les vestiges de l'apartheid que j'ai observés, ce sont les traces psychologiques qui m'ont le plus frappé. Pour bien des Capetoniens, se rendre à vélo dans un township serait perçu comme une démarche risquée. Pendant notre trajet, des automobilistes nous ont parfois klaxonné lorsque nous empiétions sur la chaussée, même quand nous avions le droit de le faire. Un receveur de minibus-taxi nous a reproché de ne pas rouler en file indienne alors que nous étions une vingtaine de cyclistes. Certains cyclistes ont dit que les infrastructures mises en place pendant l'apartheid avaient façonné chez les Sud-Africains une culture donnant la priorité à l'automobile. Les militants urbains disent vouloir changer cette mentalité. Ils ont installé de grands bacs à fleurs et des bornes jaunes vifs afin de créer des voies piétonnes et cyclables et de ralentir la circulation. Ils ont organisé des fermetures de rues dans le centre-ville du Cap et à Langa, transformant des tronçons routiers en places piétonnes animées où les Sud-Africains se rassemblent librement, quelle que soit leur race. Et ils ont invité des gens à faire une balade à vélo que beaucoup n'auraient normalement même pas envisagée. Juste pour montrer que c'est possible, a dit Fano Lifoto, membre de Young Urbanist, à la fin de notre sortie. Utilisons simplement ce que nous avons, puis construisons à partir de là. C'était ce qu'une balade à vélo m'a montré de l'héritage de l'apartheid, un texte de John Elligon du New York Times, paru le 6 mai 2026 dans Le Devoir.
Vous devriez sortir avec mon ami. Un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 3 mai 2026 dans la presse. Ce soir, 10 personnes monteront sur scène pour nous convaincre que leur ami est un être exceptionnel qui mérite l'amour, peut-être même le nôtre. J'assiste à la 5e édition de la soirée Pitch Dating du bar chez Ernest à Montréal. Pourquoi un nom en anglais? Êtes-vous déjà en train de m'écrire? Parce que le concept a le vent dans les voiles aux États-Unis et qu'on en garde le nom original un peu partout dans le monde. Pitch pour présentation courte et vendeuse, donc dating pour rencontre romantique. Concrètement, chaque présentateur a 5 minutes pour vanter les mérites d'un ou d'une amie célibataire, présentation visuelle à l'appui. Ce qui est drôle, c'est que le dit ami est sur scène aussi et qu'il doit répondre aux questions du public. En découvrant ce format de soirée sur les réseaux sociaux, Pauline Salone a tout de suite rêvé de pouvoir y participer à Montréal. Elle a proposé à l'équipe du bar chez Ernest d'orchestrer l'événement de manière bénévole et on doit saluer son flair. Le succès est au rendez-vous depuis la toute première édition co-organisée par Pauline le 25 juin 2024. À 18h45, l'établissement est déjà bondé. Mes deux accompagnatrices et moi peinons à nous déplacer dans la masse de participants. À l'entrée, Pauline nous demande de choisir un bracelet. Je prends celui qui est orange pour signifier que je suis en couple. Les célibataires doivent opter pour le vert et les personnes ouvertes, qu'importe ce que ça veut dire, peuvent porter le jaune. Il y a 4 fois plus de femmes que d'hommes dans le bar. C'est parce qu'on est volontaire et intéressé, croit mon amie Amélie. La moyenne d'âge se situe dans la trentaine et on découvrira bientôt qu'il y a une grande proportion de participants d'origine française. Si j'étais un gars célibataire de 25 à 50 ans, amoureux de l'accent parisien, c'est ici que je me tiendrais. L'écran sur scène affiche la photo des 10 personnes qui nous seront présentées. Près de chaque portrait, il y a un code QR que l'on peut scanner pour écrire directement au célibataire. Je constate que je connais 2 des individus qui nous seront vendus. Parmi eux, Charlotte Gagnon. L'artiste lyrique a demandé à son amie Cécile de la présenter. Elle m'avoue qu'elle est prête à tout essayer. Les applications de rencontre, elle n'en peut plus. Elle a envie de retrouver du plaisir à travers les déceptions. Elle ignore ce que Cécile va révéler à son sujet. Elle est fébrile. Je le serai aussi. D'autant plus que le premier duo met la barre haute. On apprend que le trentenaire sur scène est déjà entré par effraction chez l'ami qui nous le présente. Il a pris des photos de type boudoir dans l'appartement et refait la décoration en encadrant les œuvres. Le ton est donné. Ici, personne ne se prend au sérieux. Une célibataire révèle qu'elle se cherche un chum et ou un emploi. Il a expliqué la charge mentale à mon ex, dit une femme au sujet de son ami. Ça réagit tellement fort qu'on se croirait dans un bar sportif en pleine série éliminatoire. Chaque fois qu'une personne célibataire mentionne qu'elle est en thérapie, un tonnerre d'applaudissements retentit. Martin ne regarde pas le sport à la télé. Acclamation nourrie. Adeline cherche une blonde qui aimera aller voir les parties de la victoire avec elle. Cri de joie. Allez comprendre. Chaque période de questions réserve aussi ses moments d'anthologie. Si je demandais à ton ex pourquoi vous n'êtes plus ensemble, qu'est-ce qu'elle me répondrait? « Oh !» lance la foule excitée. C'est au tour de Charlotte d'être mise en lumière. Cécile met de l'avant les 1001 talents de la mezzo-soprano, son implication sociale et son dévouement sportif. Ce qui fait dire à mon amie Marie « Je ne veux pas être avec Charlotte, je veux être avec Charlotte ». Ce qui déclenche toutefois les applaudissements du public, c'est lorsque Cécile nous apprend que Charlotte est nouvellement propriétaire d'un lave-vaisselle. Photo de l'appareil ménager en prime. Un célibataire présenté plus tôt lève la main. Il est également nouveau propriétaire d'un lave-vaisselle et il se demande si Charlotte a du temps pour quelqu'un dans sa vie déjà très chargée. Serait-on témoin du début de quelque chose? J'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. La seule chose que je déplore, c'est le groupe au fond de la pièce qui parle fort. Ça, et le fait que les hommes posent très peu de questions comparativement aux participantes. Une fois les présentations terminées, alors que les gens discutent comme dans n'importe quel bar, avec un bracelet indiquant leur situation romantique au poignet, je retrouve Charlotte. Elle est émue. Ça l'a touchée de se découvrir à travers les yeux de son amie. C'est probablement ce qui m'a le plus attendri aussi. Je viens d'assister à des déclarations d'amitié d'une folle sincérité. J'ai entendu les mots doux, j'ai vu l'admiration. Ces relations-là sont plus belles que bien des histoires d'amour, au fond. Plus durables, en tout cas. Les prochaines éditions du Pitch Dating au bar chez Ernest auront lieu le 12 juin et le 18 septembre. C'était « Vous devriez sortir avec mon ami », un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 3 mai 2026 dans la presse.
L'ergothérapie au service de la santé mentale. Un texte commandité, paru le 5 mai 2026 dans la presse. Couramment utilisée en réadaptation physique, l'ergothérapie vise entre autres à favoriser l'autonomie des personnes et à leur permettre de fonctionner dans un milieu de vie qui comble leurs besoins. Or, saviez-vous que cette science vient aussi en aide aux individus vivant avec des troubles de santé mentale ? Dépression, anxiété, troubles obsessifs compulsifs, l'ergothérapie peut se révéler bénéfique dans la gestion de plusieurs troubles en lien avec la santé mentale. Elle diffère cependant de la psychologie dans son approche. La psychologie agit sur les modes de pensée. Nous, on agit par l'activité, résume en quelques mots Catherine Riva, ergothérapeute. On intervient quand le problème se manifeste dans le quotidien, quand la personne n'arrive plus à fonctionner comme elle le souhaite, dans ses rôles ou dans sa vie de tous les jours, poursuit-elle. Dans son bureau, l'ergothérapeute écoute ses patients, puis observe et analyse le déroulement de leur journée, le lever, l'organisation, les habitudes, etc. On ne travaille pas seulement sur la psyché, mais sur ce que la personne fait concrètement. À qui s'adresse l'ergothérapie ? Les personnes qui consultent en ergothérapie ne correspondent pas à un profil unique. Adolescents, travailleurs débordés, parents épuisés, retraités en transition, beaucoup vivent avec de l'anxiété, la dépression, un trouble d'adaptation ou un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Ces personnes cherchent de l'aide lorsque leur fonctionnement est affecté, quand les stratégies habituelles ne suffisent plus et que l'écart entre ce qu'elles souhaitent faire et ce qu'elles parviennent à accomplir concrètement devient trop grand. Un étudiant peut, par exemple, consulter parce qu'il n'arrive pas à remettre ses travaux à temps. Bien qu'il ne manque ni de motivation ni de capacité, quelque chose bloque. Il procrastine, se disperse, s'épuise. On ne va pas lui dire d'être plus discipliné, spécifie l'ergothérapeute. On va regarder ce qui se passe concrètement. L'environnement, les distractions, la difficulté à commencer. Puis on teste des stratégies qui lui sont adaptées. Car il n'existe pas de solution universelle. L'objectif n'est pas d'appliquer une méthode précise, mais plutôt de construire un fonctionnement qui correspond à l'individu. Et le travail ne s'arrête pas à la séance. Il se poursuit et s'applique dans le quotidien. On parle, oui, mais surtout, on expérimente, fait valoir Catherine Riva. Les gens essaient, observent, ajustent. Revenir aux bases. Concrètement, l'intervention commence souvent par la réponse aux besoins les plus fondamentaux. Le cerveau est un organe comme les autres, et il a besoin de conditions optimales pour bien fonctionner, rappelle l'ergothérapeute. Quand il ne va pas bien, il envoie des signaux, comme la fatigue, l'anxiété et les difficultés de concentration. Avant même de mettre en place des stratégies complexes avec ses patients, Catherine Riva revient donc à la base. Le sommeil, l'alimentation et l'activité physique, des facteurs simples mais déterminants. Par exemple, pour une personne en épuisement professionnel qui saute le petit déjeuner et qui ne mange réellement qu'en fin de journée, l'ergothérapeute souligne que le simple fait de réintroduire un repas le matin peut changer énormément de choses. De tels ajustements créent souvent un premier déclic. Le cerveau adopte un comportement quand il en perçoit le bénéfice, souligne Catherine Riva. Encore faut-il lui donner l'occasion de le ressentir. Agir de façon préventive. Catherine Riva insiste sur l'importance d'intervenir avant la chute. Quand l'énergie est complètement épuisée, la remontée est beaucoup plus longue, dit-elle. Dans un contexte où l'épuisement et l'anxiété sont en hausse, cette approche gagne en pertinence. Certaines cliniques proposent même des formations en entreprise pour permettre aux gens de mieux comprendre ces mécanismes et d'agir plus tôt. Quand la méthode porte ses fruits. Au-delà des outils et des stratégies, ce sont souvent les transformations les plus discrètes qui marquent. Une personne qui se remet en mouvement, qui retrouve un sentiment d'efficacité, qui redécouvre qu'elle peut. Il y a une étincelle, à un moment donné. Les gens réalisent qu'ils ont des capacités, qu'ils peuvent les mobiliser et que ça fonctionne, souligne l'ergothérapeute Catherine Riva. C'est là que tout bascule. La compréhension se transforme en changement et le pouvoir sur sa vie revient progressivement. C'était l'ergothérapie au service de la santé mentale. Un texte commandité paru le 5 mai 2026 dans la presse.
Le microbiote vaginal comme première alarme. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 avril 2026 dans La Presse. Les bactéries intestinales ne sont pas les seules à intéresser les chercheurs dans leur quête d'outils de dépistage et de guérison. Le microbiote vaginal pourrait également en avoir long à dire sur la santé des femmes. Rôle dans le dépistage. Des chercheurs américains se penche sur l'analyse du microbiote vaginal, l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans cette région du corps féminin, pour améliorer le dépistage du cancer. Le microbiote vaginal est impliqué dans la progression du cancer et peut-être dans son apparition, dit Nicole Jimenez, chercheuse à l'Université de l'Arizona. Elle présentait ses travaux à la réunion annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, AAA, en février à Phoenix. Le laboratoire où travaille Mme Jimenez, qui est spécialisée dans les cancers gynécologiques, a identifié un genre de bactérie, Sneitia, qui est associée au cancer de l'utérus. On veut étudier les interactions de Sneitia avec d'autres éléments du microbiote pour comprendre ce qui permet sa prolifération, dit la microbiologiste de Phoenix. L'exemple le plus connu de microbes qui augmentent le risque de cancer est le virus du papillome humain, VPH. Les femmes qui ont été vaccinées contre le VPH avant leur premier rapport sexuel ont 90 % moins de risque d'avoir un cancer du col de l'utérus. Le vaccin contre le VPH est aussi donné aux garçons pour réduire le risque de cancer du col de l'utérus chez les filles. Le dépistage et des traitements devrait découler des recherches sur le microbiote vaginal. On pense qu'il sera possible de détecter des cancers très tôt en analysant la réponse immunitaire à certains microbes du microbiote vaginal, dit Mme Jimenez. Certaines modulations du microbiote semblent favoriser l'inflammation menant aux tumeurs et les protéger contre le système immunitaire. Le microbiote vaginal pourrait aussi avoir un effet sur la prolifération cellulaire, une caractéristique clé du cancer. Traiter des cancers en ciblant certains microbes. L'étape suivante, qui fait déjà l'objet de recherches, est d'identifier les microbes favorisant le cancer qu'on pourrait cibler dans des traitements. Des thérapies de modification du microbiote sont envisagées et seront testés dans quelques années, dit Mme Jimenez. On teste aussi dès maintenant des thérapies de promotion des bactéries bénéfiques comme les lactobacilles qui préviennent les vaginites et le cancer du col de l'utérus. Mme Jimenez estime qu'elle verra durant sa carrière des thérapies de modification du microbiote visant à réduire le risque de cancer ou à minimiser sa progression. Il pourrait même y avoir un lien entre le microbiote vaginal et le cancer des ovaires, dit Mme Jimenez. Impact du microbiote sur les naissances. Le premier séquençage du microbiote vaginal il y a 10 ans visait surtout à résoudre des problèmes durant la grossesse, dit Mme Jimenez, qui a fait son doctorat au sein du consortium pour le microbiote vaginal de l'Université Virginia Commonwealth. Des recherches ces 30 dernières années ont par exemple montré que certaines bactéries du genre Sneitia augmentent le risque de naissance prématurée,
de mortes naissances et de transmission de la mère à l'enfant de virus comme celui du sida. Des anomalies du microbiote ont aussi été associées à l'endométriose et à l'adénomyose, deux types de maladies inflammatoires similaires. Traiter les hommes aussi. Une autre avenue prometteuse dans l'étude du microbiote vaginal est la découverte de transmissions néfastes pour la santé féminine durant les rapports sexuels. Déjà, on sait que le VPH transmis de l'homme à la femme augmente le risque de cancer du col de l'utérus. En 2025, une vaste étude a montré qu'on peut réduire les récurrences de vaginite chez les femmes en traitant aussi leurs partenaires avec des antibiotiques, dit Mme Jimenez. Des études sont aussi en cours pour voir comment les traitements du cancer du sein modifient le microbiote vaginal afin de minimiser leurs effets secondaires négatifs. L'impact des changements hormonaux. L'une des questions les plus pressantes de ce domaine est l'impact des changements hormonaux, notamment à la ménopause, sur le microbiote vaginal. Il y a beaucoup d'études en cours sur la manière dont la ménopause change le microbiote et aussi sur l'effet de l'hormonothérapie, dit Mme Jimenez. Quand les niveaux d'estrogène diminuent, il y a moins de lactobacilles et plus d'autres bactéries potentiellement néfastes. L'hormonothérapie augmente l'épaisseur de la paroi vaginale, ce qui semble promouvoir la croissance des lactobacilles qui sont bénéfiques. Les hormones sexuelles, notamment l'estrogène, modifient le risque de certains cancers, y compris de cancer du sein. On commence à comprendre que les changements du microbiote peuvent avoir un effet sur la quantité d'estrogène qui est émis, dit Mme Jimenez. Les changements du microbiote vaginal à la puberté, notamment quand elle est précoce, pourraient aussi améliorer la gestion de certains facteurs de risque oncologique, dit la microbiologiste de l'Arizona. En savoir plus. Source Société canadienne du cancer. 12,6% risque pour une Canadienne d'avoir un cancer du sein durant sa vie. 3,4% risque pour une Canadienne d'avoir un cancer des ovaires durant sa vie. 1,3% risque pour une Canadienne d'avoir un cancer de l'utérus durant sa vie. 0,6% risque pour une Canadienne d'avoir un cancer du col de l'utérus durant sa vie. C'était Le microbiote vaginal comme première alarme, un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 avril 2026 dans La Presse.